Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez RMC.
Florent Germain, en direct de Marseille, est avec nous. Florent, bonsoir.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Florent.
Alors, tout à l'heure, Romain Calutti nous parlait d'Igor Tudor, on va en dire un mot tout à l'heure, mais on voulait t'avoir pour comprendre la réorganisation des dirigeants à l'OM. Parce qu'on apprend, quand on apprend que McCourt n'est plus l'homme qui dirige la structure, on va dire, fêtière, comme on dit, du club, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut que tu nous décryptes ce qui s'est passé aujourd'hui.
Bah, c'est assez logique, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'émotion suscitée par cette information, la démission du boss Franck McCourt du conseil de surveillance, mais après, sauf si on nous cache quelque chose et peut-être que à moyen terme, on se rendra compte que c'était un mouvement important pour l'avenir de l'OM, mais honnêtement, j'en suis pas persuadé. Tout ce qui nous revient, c'est que il s'agit uniquement d'une réorganisation interne qui n'a aucune conséquence sur son engagement.
Ça, c'est ce qu'on te dit.
Non. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais c'est pas forcément l'Olympique de Marseille ou les proches de McCourt qui me le disent. C'est différentes sources.
Non, mais c'est ça que je voulais savoir. Je voulais procéder par étapes.
C'est
ce qu'on a dit. C'est ce que tu as vérifié. Quoi.
C'est ce que j'ai vérifié.
Voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Voilà.
Donc voilà, de personnes qui, si c'était le contraire, seraient capables de me le dire. Donc voilà, que le statut d'actionnaire ne change pas, évidemment, pour Franck McCourt, c'est toujours le boss. Il met en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le nouveau président de ce CS, du conseil de surveillance, c'est Barry Cohen. C'est un intime, un très proche de Franck McCourt. Il est là depuis le début, depuis le rachat. Et il faut presque même voir les choses d'une autre manière, c'est que Franck McCourt, il était au conseil de surveillance, mais quelque part, il n'avait rien à y faire parce qu'il n'avait pas le temps véritablement de mettre le nez dans les finances de l'OM, ou alors pas avec autant de sérieux et de poids que peuvent le faire Jeff Ingram et surtout Barry Cohen, qui désormais est donc le président de ce conseil de surveillance. Donc en fait, en mettant des proches à lui... C'est pareil, voire un signe plus fort que ses proches vont y passer du temps, vont désormais avoir un rôle très clair de superviser, de surveiller, comme son nom l'indique, les finances du club. Parce que Barry Cohen, c'est pas un tendre. Hein. Barry Cohen, c'est quelqu'un qui
Barry Cohen des frères Cohen.
quand Pablo Longoria et Pedro Iriondo, qui est le grand DG ou le directeur stratégique de l'OM.
Il y a beaucoup de directeurs dans l'organisme de l'OM.
Ouais. Pas mal. Ouais. Quand ils ont dû rendre des comptes récemment ou faire le point un peu financier, c'est justement envers Barry Cohen et Jeff Ingram qu'ils avaient dû expliquer tout cela. Ils s'étaient déplacés aux États-Unis. Ils n'ont pas rencontré Franck McCourt. Donc en fait, Barry Cohen, président du conseil de surveillance, c'est le vrai bras droit de Franck McCourt. Donc il y a malgré tout très clairement la volonté de McCourt de rester très impliqué, de surveiller le club. Le groupe McCourt, c'est pas que l'OM, hein. Enfin, faut quand même le rappeler. Nous, on est des passionnés, on parle ballon à longueur de journée, mais le groupe McCourt, ce sont énormément d'activités. L'OM en est une de ces activités et McCourt, il n'avait pas le temps de véritablement être opérationnel dans ce conseil de surveillance. Donc c'est finalement un choix interne qui est plus logique par rapport à ce qui se passait en interne. L'autre info concernant le conseil de surveillance, je crois, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les deux heures précédentes, mais en tout cas, c'est que selon nos infos, il y a de grandes probabilités que Jacques Anhiéro quitte le conseil de surveillance. C'était en tout cas en discussion encore aujourd'hui avec.
C'était l'objet de la chronique de Jimmy. On lui a rendu un hommage appuyé avec ses plus grandes punchlines de l'histoire.
Ce n'est pas acté, c'est pas encore définitif, mais ça peut. Présager deux changements aussi au conseil d'administration de la Ligue, parce que si jamais il n'est plus au conseil de surveillance, Jacques Anhiéro, il ne pourra pas siéger à la Ligue de football professionnel. En revanche, Pablo Longoria a plus d'un an de présidence. Donc, si Jacques-Henri Hérault quitte le conseil de surveillance et donc le conseil d'administration de la Ligue, il y a de fortes probabilités que Pablo Longoria éventuellement siège à l'avenir.
Il pourrait y avoir quand même un petit compliment pour Jacques-Henri Hérault, c'est d'avoir mis Longoria.
ça c'est un peu ton raccourci quand même depuis
quelques mois. Il a jamais.
C'est pas lui qui allait le chercher, hein.
C'est qui, c'est moi
qui allait le chercher. C'est pas lui. Il avait mandaté une société.
Une société de chasseurs de tête.
Chasseurs de tête.
Ouais. On lui a mâché le travail, on va dire.
Exactement. Et Jacques-Henri Hérault ne connaissait pas ou à peine Pablo Longoria quand il est arrivé au club. Donc c'est vrai que tu as souvent dit ça, coach, mais.
Ben oui, parce que je pensais peut-être naïvement que. Il avait peut-être chargé des gens d'aller chercher et peut-être quand même il a rencontré avant de le faire signer, non ?
Oui, non mais je dis pas qu'il a eu aucun rôle parce qu'effectivement il a forcément été consulté, il a validé le profil et oui je dis pas le contraire, mais on peut pas non plus dire que c'est Jacques-Henri Hérault qui.
Bon allez, alors d'accord, ça va, c'est bon, il a rien fait de bien, zéro.
Non, j'ai pas dit ça du tout.
Ah bah si, non mais moi je le dis, rien de bien, ça c'est sûr. Zéro complet. Oui. Zéro complet.
Cela dit,
je sais pas.
On est arrivé à son objectif parce qu'il disait qu'il y avait trop de Marseillais au club. Maintenant, avec des Espagnols. Donc, finalement, il a réussi, non?
Ce qui crée quelques tensions au club, parce que je peux pas vous cacher qu'en ce moment, l'ambiance est très tendue, au sein de l'Olympique de Marseille. Voilà, faut appeler un chat, hein. Il y a une deuxième place au classement en Ligue 1 qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais au sein de la commanderie, c'est très tendu à tous les niveaux. Là, ce soir, il y avait.
Ça c'est intéressant, Flo. Arrête-toi deux secondes là-dessus. Explique-nous ça quand même.
Bah, c'est tellement un panier de crabes que c'est difficile de le décrypter.
Mais pourquoi un panier de crabes? Qui sont les crabes?
Bah, en fait, il y a des tensions entre différents clans, entre guillemets, au sein du club. Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir, enfin, le soupçonne de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pedro Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur que il pourrait y avoir des départs. Donc ça crée des tensions. D'autres reproches à Pablo Longoria de pas suivre la feuille de route de l'actionnaire et de pas avoir suffisamment vendu cet été, de pas savoir non plus pendant combien de temps véritablement Pablo Longoria restera au club, enfin, et s'il est capable effectivement de faire ce ménage là en interne avec beaucoup de modifications, voilà, pour quel objectif, hein, voilà, il y a beaucoup de tensions et beaucoup de questions qui se posent en ce moment.
C'est étonnant ce que tu nous racontes parce que bon, on avait quand même une image un peu idyllique, genre Longoria, l'homme de la situation, le passionné de foot, les réseaux, la connaissance. Ça peut paraître assez surprenant.
Bah, ce que tu dis, en quoi ce que tu dis là contredit ce qui a été dit avant, le fait qu'il veuille faire le ménage, ça.
Non. Ce qui est surprenant, c'est que l'image qu'on a généralement de l'OM, c'est plutôt un club serein qui fonctionne parce qu'il y a un président qui est efficace. Et là, en l'occurrence, ce que le décrit Flo, c'est pas ça.
Non, mais en fait, il y a un secteur sportif qui fonctionne très bien. Enfin, il y a un mercato qui a été assez, qui est plaisant, pour le moment est efficace en championnat aussi, enfin surtout en championnat, un peu moins en Ligue des Champions, mais voilà, je souhaite vous alerter sur le fait que il faut pas croire que tout est rose à l'Olympique de Marseille, qu'il y a certaines tensions. Il y a eu une réunion, c'est vrai, en tout début de trêve internationale où Pablo Longoria et ses équipes ont expliqué qu'il allait falloir absolument faire des économies en interne, dans le fonctionnement interne, ça a fait grincer quelques dents justement par rapport au fait que il y avait eu quand même un mercato qui avait été très actif et peut-être qu'on n'avait pas assez vendu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est on est dans une période plus trouble qu'on peut le croire, bon. En tout cas que le sportif.
Et avec répercussions sur le sportif possible, tu vois l'évolution
pour le moment pas forcément. pas forcément, puisque on a quand même une bulle avec le secteur professionnel, Igor Tudor, qui lui ne se soucie absolument pas de tout ça. Donc moi je peux pas te garantir que, enfin, te dire que ça aura un impact sur le secteur sportif, mais c'est vrai qu'on c'est palpable en interne qu'il y a certaines tensions. Moi je l'ai vécu aussi aujourd'hui, par exemple, quand on sur RMC on a sorti l'information comme quoi Jacques-Henri Hérault allait probablement, j'ai pas dit que c'était fait, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai dit que c'était une tendance forte qu'il quitte le conseil de surveillance. Ça a été vécu comme un drame absolu, que RMC sorte cette information. On a cherché à savoir quels étaient les informateurs. Enfin, ça respirait pas du tout la sérénité. Et en fait, c'est voilà, je pense que un club, ce n'est pas uniquement le secteur sportif, les résultats purs et durs et la deuxième place au classement. Il y a aussi une ambiance en interne. Et voilà, je profite de l'occasion quand même pour.
Et Flo, une question un petit peu peut-être, je dirais pas stupide, mais banal dans le sens que depuis de longues années, moi je me suis fait toujours une idée de ce qu'était un président et l'importance d'un président. Mais je pensais que Longoria, ce n'était pas le président que je m'imaginais au niveau de la fonction dans un club. Provisoirement, oui, mais pour moi, c'est le responsable du recrutement, c'est un recruteur, c'est un directeur sportif. Et en plus de ça, il a aussi le rôle et les fonctions d'un président. Et ça va durer longtemps, ça?
Bien sûr, il est président.
Attention, je dis bravo.
Président de l'Olympique de Marseille.
Je dis bravo parce que je m'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de choses aussi importantes que ça dans un club. Je me l'imaginais pas.
Mais après, dans l'âme,
sache que ça a été un souci l'année dernière.
Directeur sportif, hein. Messieurs.
Ça a été un souci l'année dernière parce qu'à un moment il a failli craquer nerveusement parce que il était en surmenage tellement il en faisait. Il a même été dans sa tête à un moment dans une réflexion pas loin d'un départ parce que il pouvait pas faire face à tout ce qui lui était proposé.
Javier Ribalta notamment est arrivé, qui est vraiment son bras droit pour le secteur sportif. Après, Pablo Longoria, coach, pour vraiment répondre à ta question, il a toujours l'âme d'un directeur sportif. Enfin, son dada, ça reste le mercato, les coups à faire, sentir les choses. Je vous donne un exemple. À la Commanderie, il y a le secteur sportif et le secteur administratif, pour ceux qui connaissent. Il est souvent quand même au secteur sportif. Il est très attiré par la relation avec les joueurs, avec les agents.
C'est-à-dire le bilan commercial ou la gestion des sponsors, sportifs. C'est pas trop son domaine, quoi.
Au moins. Il peut, mais il y a un autre de ses adjoints qui est Pedro Iriondo, qu'on connaît assez peu, mais qui est chargé de cela. Il y a également Stéphane Tessier, un ancien de l'AS Saint-Etienne, qui s'occupe des finances. Bon, il est quand même staffé, et entouré. Voilà. Sa passion première reste le domaine sportif. En termes de communication aussi, essaye de prendre et prend plutôt la statue parce qu'on aime l'avoir en direct à la radio ou parfois le lire dans des interviews, ce qui est intéressant, Pablo Longoria. Mais voilà, malgré tout, ça reste avant tout quelqu'un qui vit et qui se plaît pour le domaine sportif.
Bon, on va quand même suivre ce qui se passe quand même en interne, hein, donc dans les bureaux, parce que des fois, ça peut avoir des conséquences sur le terrain, et notamment à Marseille, Roland a connu ça. Des fois, quand il n'y a pas unanimité parmi les dirigeants,
c'est un endroit compliqué déjà d'avoir une fonction à l'Olympique de Marseille. C'est compliqué. Si en plus tu es président, directeur sportif, recruteur, ça fait, pour moi, je dis que ça fait beaucoup, pour ne pas dire, ça fait peut-être un peu trop pour un seul homme.
Florent, merci beaucoup. On va débattre de Tudor, mais là, t'inquiète, on a Roland, je pense qu'on n'a pas besoin de toi. À moins que tu veuilles rester, mais.
Quel est le sujet?
On voulait rebondir sur ce que disait Romain, là. Tu vois, Romain qui implore Tudor de surtout pas changer de système. Demain, l'OM joue à Angers. Donc,
pas de système.
Bon, reste avec nous, tiens. Reste avec nous, comme ça tu vas nous donner les infos du jour, voilà. Puisque tu étais présent à la Commanderie. Et puis le 32-16 est ouvert, supporters de l'OM. La Ligue 1 revient demain. C'est l'occasion de parler de l'OM qui espère repartir de l'avant, évidemment, dès demain soir à Angers. À tout de suite dans l'after.